À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science friction. Une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Bonsoir à vous tous. Bonsoir
tout le
Alain.
Monde. Bonsoir.
Eh bien, Alain, on se retrouve ce soir pour un deuxième volet,
un deuxième round
sur la série Westworld. Toujours sur la première saison, qui nous paraît quand même la meilleure, la plus troublante, etc. Même s'il y a des choses intéressantes dans la deuxième saison.
Ouais,
et paraît-il bientôt une troisième saison avec 8 épisodes va arriver. Donc on ne la manquera pas quand même. Même si on pense que la meilleure reste la première.
Ouais, enfin, à la fin de la seconde saison, il y a quand même pas mal de portes qui s'ouvrent, enfin de possibilités. Je pense que ça va devenir beaucoup plus compliqué et peut-être plus riche aussi.
Le labyrinthe, il va avoir des portes maintenant.
Il y en avait une dans la saison 2, mais.
Oui.
Et à mon avis, il va surtout y avoir une espèce plutôt d'un nouveau labyrinthe, je pense. Un chemin au sentier qui bifurque, comme dirait Borges.
Ouais. Alors cette première saison, on doit le dire, elle est assez exceptionnelle et elle est, on a parlé un petit peu la dernière fois, c'est une série qui est troublante, une série de science-fiction qui mêle en fait plusieurs genres, hein, le western, la science-fiction...
Les films de samouraï.
Ça c'est dans
la deuxième saison.
Ça arrive après, ouais. Mais il y a aussi toute cette idée du jeu de rôle aussi. Hein, du jeu de rôle, et, etc. Donc, et avec cette idée aussi qu'il y a une espèce de mise en abîme. On l'avait déjà évoqué la dernière fois, une mise en abîme donc, du spectateur. Tout d'un coup, nous, spectateurs, on s'identifie donc à ces personnages et tout d'un coup, il y a donc des spectateurs qui rentrent dans le film.
Oui, et puis parfois, à un moment, il peut y avoir aussi des courts-circuits, comme par exemple, tu t'identifies à William et que tu t'aperçois à la fin que... ce personnage qui a l'air plutôt sympathique au début, quand il est jeune, est devenu apparemment une espèce de vieux salaud.
Oui.
Voilà. Mais donc, ça peut déstabiliser aussi.
Oui, c'est déstabilisant. Bon, alors, il y a en effet tout un jeu. C'est ça qui est, entre autres, troublant. Il y a un jeu sur l'identité, sur les identités, et aussi sur notre capacité de nous identifier. Il y a cette idée que, quand on regarde un film, une série, etc., on se projette, on s'identifie à des personnages et bien ces personnages, ils sont particulièrement troublants parce que, en effet, là où on les attend, eh bien, ils ne sont pas forcément. On va voir qu'il y a des décalages, des dysfonctionnements, des ressemblances, des jeux de miroir, hein, puisque, en fait, quand le concepteur donc, de ce grand parc d'attractions qu'est Westworld va jouer à modifier et faire dysfonctionner en quelque sorte ces
créations, ces créatures.
Voilà. Ouais. Donc il y a cette dimension-là qui est pour nous, je le pense, et c'est ça qui fait le charme du film, extrêmement troublante, parce qu'il vient jouer beaucoup sur de l'émotionnel.
Ouais, oui.
Notamment, et on va parler là ce soir, il faut qu'on essaie d'en parler un petit peu, des personnages, en tout cas des personnages principaux. Donc, on est là face à une série qui est assez troublante, hein, parce que ça vient en quelque sorte troubler pas seulement le genre, les genres, mais aussi notre capacité d'identification. Hein. Alors... Alain, ces personnages, on peut en parler un petit peu. Il y a le personnage quand même qui est le personnage peut-être central, même si c'est pas, comment on pourrait dire, le personnage qui tire toutes les ficelles. Hein, c'est Dolores Abernathy,
ouais.
Hein, je ne me trompe pas sur le nom. qui est quand même le personnage le plus fascinant de la série.
Ouais, c'est un des personnages les plus fascinants. Ouais.
Il y en a d'autres. On va parler de Maëve aussi. Mm-hmm. Mais Dolores Abernathy. Alors déjà le nom, Dolores, les douleurs. Mm-hmm. Hein.
Oui, c'est un personnage assez étrange. Enfin, très étrange. Parce que ça a l'air d'être, au début, c'est plutôt ça a l'air d'être une jeune femme un peu naïve, un peu poète, qui fait de la peinture, qui évolue dans une espèce de vision un peu idéalisée. Tu vois, elle cherche toujours à voir ce qui est beau, contrairement à son père. Tu vois, elle a une formule là-dessus dont je ne me rappelle plus très bien, mais elle dit qu'est-ce qu'elle cherche à voir, c'est vraiment la beauté des choses, les paysages, etc. Et ce personnage, petit à petit, va évoluer vers un personnage beaucoup plus dur et beaucoup plus sombre. Hein.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, ce personnage de Dolores Abernathy, c'est ce que tous les hommes, en fait, le fantasme de tous les hommes,
oui,
femme douce, positive,
intelligente,
qui sourit,
artiste,
voilà, et aussi qui subit
la violence des hommes.
La violence des hommes, presque en voilà, qui est soumise, une femme soumise, presque voilà. En disant rien. Évidemment, la série commence à nous amener à comprendre que ce personnage, malgré tout, il va être amené à souffrir à cause de la mémoire. Hein. Mm-hmm. Pas tant peut-être à cause des sentiments que nous projetons sur elle, mais à cause de cette mémoire, de ses vies qu'elle n'arrive pas en quelque sorte à vivre.
C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'arrive pas à les vivre, c'est qu'elle n'en a pas la mémoire. Et petit à petit, cela va faire jour, va poindre, va commencer à avoir des flashbacks d'histoires antérieures. Parce qu'à chaque fois, elle recommence cette histoire. Tous les ans, c'est la même histoire. Tous les ans, William revient. Tous les ans, William la tue, etc. Et c'est toute cette histoire-là, qui est une espèce de boucle infinie, mais dont elle ne se rappelle jamais. Et à un moment, cette boucle ne se boucle pas vraiment. Il y a quelque chose qui va rester en elle. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à se poser des questions. Et ça va être le début de sa transformation, en quelque sorte.
Et qu'il va y avoir une faille.
Oui, il va y avoir une faille, tout à fait.
Une faille, et c'est
provoquée par les fameux petits gestes dont on parlait, là, les rêveries que Robert Ford a implantées dans ses androïdes, qui sont des petits gestes qui permettent justement des réminiscences qui normalement leur sont interdites.
Oui, alors moi, en fait, en revoyant la série pour préparer l'émission, je me disais, en fait, ce qui lui manque à Dolores, parce qu'on lui a mis des souvenirs, etc., etc., mais c'est une véritable enfance. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle elle n'a pas construit sa personnalité cette capacité qu'a l'enfant de pouvoir s'échapper, en quelque sorte. En tout cas, le personnage qui nous est montré est tel que, quand on suit cette série, en fait, quand on s'identifie à elle, elle est prisonnière. En tout cas, ce personnage est prisonnier. Et nous, en nous identifiant à elle, on est prisonnier, en fait, de la programmation dans laquelle elle se trouve.
Oui, mais ça, c'est le cas de tous les
personnages.
Tous les autres.
Oui.
Tous les autres sont prisonniers de cette programmation.
Mais on a l'impression que particulièrement, elle n'arrive pas à
s'en échapper.
À s'en échapper. Alors, peut-être que c'est là, moi, en tant que spectateur singulier qui tend à m'identifier, mais c'est la difficulté quand on s'identifie avec ce personnage, en quelque sorte, au moment où on se projette, en effet, on sent cette fatalité.
Oui, qu'elle ne peut pas échapper à son destin, quoi.
Oui.
Voilà, au récit qui lui a été alloué, au scénario qu'on a écrit pour elle. Quoi.
Alors, en effet, alors, ce qui est intéressant, et je pense que le film de science-fiction, on l'avait déjà évoqué, vient là poser une question la question de l'homme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Ou qu'est-ce que c'est qu'une femme, là, particulièrement?
Oui, un être humain, quoi.
Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le jeu de miroir que ça vient faire par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, en quoi notre vie, finalement, c'est peut-être la question que pose le film, hein, en quoi nous échappons à la programmation que nous nous sommes faites, peut-être, ou qui a été faite, en quoi nous échappons, en fait, à notre destin. Mm-hmm. En quoi nous sommes capables de sortir de la boucle, de la répétition, de la reproduction.
Nous arracher à nos déterminismes.
Et voilà. Hein, c'est la difficulté de William qui est dans ce que Freud appelle la compulsion de répétition. On ne cesse de rechercher, de répéter, de chercher à reproduire quelque chose qui nous a produit un grand plaisir.
Oui et non, parce que William, lui, en fait, ce qu'il cherche à faire à travers ses actions, ou plutôt ses exactions, surtout quand il est vieux, c'est pas tellement à reproduire toujours la même chose. C'est au contraire, il espère qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, que ça va se rompre, que les androïdes vont lui dire non, stop, ça suffit. Il essaye de les pousser à bout jusqu'à un point où il pourrait découvrir quelque chose comme qui serait de l'ordre du libre arbitre et qu'il s'opposerait à lui. Il pourrait s'opposer à lui à un moment. Et c'est ce qu'il cherche d'année en année quand il retourne dans le parc, c'est ça. Mais il n'y arrive jamais.
Alors c'est extrêmement fascinant parce que la question qu'on peut se poser, Alain, c'est forcément, c'est il sait que ce sont des androïdes. Mm-hmm. Donc forcément, tout le jeu qu'il va avoir avec chacun de ces personnages, en fait, c'est un jeu, comme un jeu d'échecs avec Robert Ford. Mm-hmm. Puisque c'est Robert Ford qui programme, déprogramme, reprogramme. Donc quelque part, quand il tire, c'est terrible. Quand il tire sur Dolores, en fait, ce n'est pas sur Dolores qu'il tire, c'est sur Robert Ford.
Oui, tout à fait. Hein? Oui, oui.
Donc, il y a ce jeu, il y a ce dialogue entre ces deux personnages. Il va falloir qu'on parle aussi de Robert Ford, bien sûr. Le concepteur du parc d'attractions. Hein. Ouais. Et ce qui est troublant quand même, malgré tout, c'est qu'on se rend compte que ces personnages sont comme des pions. Et malgré tout, dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a eu des puissants qui sont servis des êtres humains, comme mm-hmm. des pions, comme, mm-hmm. Comme si, en fait, leur vie n'avait pas plus de valeur que celle d'un moustique. Et c'est extrêmement troublant parce que c'est un jeu de miroir. En fait, en quelque sorte, le film pose la question de la violence hein, et pose la question en fait, de l'indifférence par rapport à cette violence. Pas simplement de la jouissance qu'on peut avoir en perpétrant des actes violents. Parce qu'évidemment, on peut penser que c'est entre autres ça que cherchent les visiteurs. Oui. À éprouver un très grand plaisir dans la transgression d'interdits fondamentaux.
Oui. Hein, tu ne peux pas se permettre dans la vraie vie.
Voilà. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais en même temps, moi, je trouve que ce soit Robert Redford... Enfin, Robert Redford, ça y est, ça.
Attention, Robert Ford.
Et William ont quand même un objectif commun, moi, je pense, même s'ils s'opposent tous les deux, c'est quand même l'émancipation des androïdes. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils cherchent.
Oui, qu'ils ont compris tous les deux, d'ailleurs. C'est là où ils sont sur la même longueur d'onde, tous les deux.
Il faudrait qu'ils ne soient plus instrumentalisés. Il faudrait que les androïdes s'émancipent.
En quelque sorte, c'est ce qui est intéressant, c'est que Robert Ford, qui conçoit cette nouvelle race, si l'on peut dire, hein, ou espèce humaine, je ne sais pas ce qu'on peut dire, hein, en fait, son partenaire de conception, c'est William. Parce qu'en quelque sorte, par son obstination, il amène les limites par rapport auxquelles, en quelque sorte, Robert Ford va concevoir des personnages qui vont avoir une autre humanité, peut-être une humanité supérieure, entre guillemets.
Je ne sais pas si c'est supérieur, mais c'est sûr qu'on peut se poser la question si les androïdes, finalement, ce qu'ils désirent, c'est devenir humains. On a l'impression qu'ils cherchent, au contraire, une identité qui leur serait propre.
Oui.
Ce ne seraient plus des androïdes, évidemment, parce qu'ils acquièrent la conscience au cours de la saison. Mais je ne pense pas qu'ils se revendiquent comme humains non plus.
Une nouvelle espèce.
Ils ont la conscience d'être autre chose.
Des aliens.
Ce ne sont pas des extraterrestres.
Oui,
non.
Pas des extraterrestres, mais aliens, mais, des voilà. autres. Aliens,
ne serait-ce que
autre.
Parce qu'eux, ils ne vieillissent pas. Ouais. Donc, contrairement à William, tu vois. Ouais. Et aussi le fait qu'eux, ils peuvent facilement déménager leur conscience d'un corps dans un autre. Il suffit de télécharger leur mémoire et de la remettre dans un autre corps. C'est ce qui se passe à la fin de la saison 2 avec Dolores, d'ailleurs. Mmh. Donc, ce ne sont plus des androïdes, mais ce ne sont pas non plus des humains.
Oui, parce qu'ils sont dans un autre rapport au temps.
Dans un autre rapport au temps et dans un autre rapport au corps aussi. Oui,
tout à fait. C'est la grande différence, notamment avec le film de Ridley Scott, Blade Runner. Parce qu'en fait, les androïdes dans Blade Runner, ils sont en train de mourir.
Oui.
C'est pour ça qu'ils reviennent sur Terre pour chercher leur concepteur. Parce qu'ils vieillissent à très grande vitesse et ils meurent. Et donc, c'est pas du tout dans le sens
programmé. Ça.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, leur temporalité, elle est réduite et elle est accélérée en quelque sorte. Leur destin s'accélère. Alors qu'en quelque sorte, le destin des androïdes de Robert Ford, de Westworld, est ouvert.
Complètement. Il peut être infini, quasiment.
Il peut être infini. Nous allons écouter un petit morceau de musique. Vous êtes bien sur Divergence FM et nous parlons avec Alain Vattier, donc d'une série, télé américaine qui s'appelle Westworld. Donc nous parlons un petit peu de ce qui fait de cette série une série absolument exceptionnelle. En tout cas, on parle surtout de la première saison, hein, qui est une saison particulièrement étonnante.
Et riche.
Et riche, ouais. Alors, on vient d'écouter un morceau de musique. C'est quoi ce morceau de musique, Alain?
C'est un morceau de Scott Joplin, The Entertainer. Et c'est un morceau qu'on entend, qui est joué sur le piano mécanique dans le bar Lupanar tenu par Mev.
Oui. Alors, bon, il y a une dimension, c'est le western, là. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui est, on pourrait peut-être presque dire, alors c'est un beau morceau, hein, quand même, mais c'est presque un stéréotype aussi,
par rapport au piano
mécanique, le western, voilà. Donc là, on est vraiment dans des repères qui sont des repères très stables, très, très évidents, très clairs par rapport au genre.
Au genre, hein.
Alors, on a commencé à parler, Alain, de Dolores Abernathy, et on a dit que ce personnage allait évoluer, et que, en effet, cette image très sensible, un peu fleur bleue, de femme soumise, etc., va changer, se transformer complètement, pour devenir, par la suite, une femme...
Un personnage déterminé et très dur. Ouais.
Un personnage qui ne subit plus, qui prend sa vie et son destin en main, et qui va donc...
Et qui a un objectif très précis, et qui tient à le maintenir jusqu'au bout.
Oui.
Et par tous les moyens.
Se libérer.
Se libérer elle
Et les autres. Donc, Dolores Abernathy... personnage central et à la fois un stéréotype, hein, parce que c'est en effet ils ont choisi
Au départ, c'est un personnage de genre, comme tu disais, c'est un personnage qui a été écrit par un scénariste, qui colle à une image, une représentation, et qu'elle va complètement s'en détacher.
Quoi. Oui, elle et aussi l'autre personnage avec lequel elle forme un couple, n'arrive pas d'ailleurs à la défendre dans un premier temps.
Ted.
Cet autre personnage, c'est un couple de western presque classique.
Tout à fait.
Donc, on voit que ce stéréotype, il va être démonté, il va être déconstruit progressivement par ce Robert Ford, ne nous trompons pas. Alors, on se demande d'ailleurs au passage si nous qui faisons tout le temps ce lapsus avec Robert Redford, s'il ne s'est pas un petit peu amusé
avec le nom. Et puis aussi le nom de Ford ne renvoie pas au fameux Ford, du Fordisme. L'industrialisation, la démocratisation de la voiture, ce genre de choses.
D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, Robert Ford, alors qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce personnage ?
Eh bien, c'est un personnage au départ, quand on le suit au fil et à mesure des épisodes, moi, j'ai eu des sentiments très, très contrastés. Il y a des moments où j'avais l'impression que c'était un personnage plutôt sympathique et qui avait des objectifs, positifs, etc. Et il y a des moments où tu as l'impression que c'est un personnage détestable, c'est un vrai salaud. Et au bout du compte, c'est pas comme ça qu'il faut le juger, quoi. C'est vraiment un personnage, je pense, qui cherche à... qui veut pousser son travail de recherche, parce que c'est un expérimentateur, qui veut pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il veut pousser ses machines jusqu'à la vie. Il veut effacer la limite qui existe entre la machine et le vivant.
Alors en même temps, c'est pas un manipulateur génétique, on peut pas dire ça.
Non.
Donc il va plus travailler sur une mémoire qui est une mémoire artificielle.
Mm-hmm.
Mais en même temps, en amenant cette mémoire artificielle à défaillir, une espèce de dysfonctionnement qui va produire, des espaces dans lesquels justement ces personnages vont pouvoir se construire.
Tout à fait.
Pas seulement se reconstruire, mais se construire une nouvelle identité, une nouvelle existence.
Oui, à partir de laquelle ils vont pouvoir effectivement devenir des sujets, au plein sens du terme.
Alors, ce Robert Ford, il est problématique parce qu'en effet, on voit bien qu'il veut créer une nouvelle espèce, c'est plus qu'un parc d'attractions. Mm-hmm. Il veut ouvrir l'espace de nouveaux genres. Mm-hmm. On ne va peut-être pas dire un nouveau genre humain, puisque tu disais peut-être très justement qu'ils n'ont pas envie forcément d'être humains. N'empêche qu'il y a chez lui un caractère manipulateur, mais en même temps... Il n'utilise pas simplement ces androïdes, ces personnages comme des pures marionnettes. mm-hmm. puisqu'il leur laisse en quelque sorte une petite marge. Un peu progressivement, il leur permet en quelque sorte de pouvoir évoluer.
Oui, enfin, peut-être, disons que, comment je pourrais dire, cette évolution, je pense qu'il commence à la provoquer. Il y a eu un long temps de recherche où apparemment ça ne marchait pas. Et c'est vraiment avec cette série de petits gestes dont on parlait, les rêveries, je pense que le nom n'est pas choisi au hasard. Les rêveries, ça renvoie à l'inconscient. Et donc, l'inconscient, c'est déjà le début de l'existence d'un sujet, je pense. Hein. Et c'est à partir de là qu'effectivement tout va basculer et que tout va changer et qu'il va pouvoir vraiment mener son projet à bout. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, hein. Oui. Et alors, il y a aussi le problème qui est posé par la série, savoir si Robert Ford est mort.
Ah oui, à la fin.
Si, en fait, Robert Ford lui-même n'a pas
anticipé ce meurtre, il n'a pas construit un androïde à son image, voilà. Faisant croire qu'il a été tué par les autres androïdes, oui.
Donc même là, on est dans le trouble, c'est-à-dire oui. qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment lui ou pas lui, ce personnage qui meurt et qui se fait assassiner en quelque sorte.
Oui, par Dolores.
Oui, et on sait que les autres visiteurs qui se font tuer, ils se font vraiment tuer, oui. mais lui, en fait, la question reste posée.
Effectivement, là, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura des rebondissements dans la saison 3 ou 4, je ne sais pas. Mais
est-ce qu'il va ressurgir ?
Dans tous les cas, jusqu'à la fin de la saison 2, il est laissé pour mort, hein, ça c'est certain.
Hein. Ouais.
Même s'il continue à avoir une espèce d'opposition entre William et lui qui serait mort, hein, il continue à s'affronter, mais... Est-ce que William affronte un fantôme ou est-ce qu'il affronte vraiment quelqu'un qui est encore vivant, quoi ?
Oui, c'est la question d'ailleurs. Bon, après, c'est quelque chose que les concepteurs de Game of Thrones avaient fait avec un personnage qui s'appelle Jon Snow. Il est tué, puis en fait, il est ramené à la vie en quelque sorte. Et par sorcellerie, par magie, là, c'est parce qu'il a la capacité de pouvoir reconstituer.
Un autre Robert Ford, oui.
Voilà.
Qui lui ressemblerait.
Alors, quand même, Alain, on arrive bientôt au terme de l'émission. Il y a quand même ce personnage de William qui est, qui est problématique parce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est une projection du spectateur. Mm-hmm. Spectateur puisqu'il entre dans une forme d'addiction par rapport à cette aventure, il revient chaque année. Il répète indéfiniment.
Oui, mais il revient avec des objectifs différents, je pense, au fil des années. Parce qu'au départ, ce qu'on apprend, c'est que c'est un employé de Delos, qui est le patron de la boîte qui a créé, en fait,
Westworld,
et qui va épouser sa fille. Et au début, c'est donc, je dirais pas un petit employé, mais c'est un cadre supérieur, etc. Ouais. Et au début, il est un peu sceptique par rapport à ce parc. Et c'est au contact de Dolores qui va commencer à éprouver des sentiments pour un androïde, en fait. Hein. Et je pense qu'après, quand il revient, ce qu'il va chercher à faire, c'est justement émanciper Dolores pour pouvoir la retrouver comme une femme, quoi. Pas comme un androïde. Et donc, il revient avec cet objectif-là. Et plus il échoue, plus apparemment, ses interventions deviennent dures et cruelles parce qu'il cherche toujours à essayer de les pousser
aller
plus loin, oui.
En fait, on est là à travers William, un petit peu le comment on pourrait dire, l'obstination qui est troublante, hein, de la série, dans le sens où on cherche à provoquer indéfiniment par rapport à des choses qui ne changent pas.
Oui. Hein.
Pourquoi chercher à répéter indéfiniment la même expérience, hein, sachant que ça va donner les mêmes résultats, en fait. Hein. C'est Einstein qui dit que est fou celui qui répète, en répétant les mêmes expériences, attend d'autres résultats.
Mm-hmm.
C'est une formule d'Einstein. Et pourtant, il faut croire que William...
Lui, je pense que dans le départ, il pense peut-être qu'à force de répétition, quelque chose va s'inscrire. Il va en rester des traces, il va en rester quelque chose qui permettra donc à l'androïde de prendre conscience de ce qu'il est et de son existence et d'où il vient, de prendre conscience de ses déterminismes. Et à partir de ce moment-là, s'il prend conscience de ses déterminismes, il peut s'émanciper.
Alors en fait, si on regarde cette série, parce que la question, le débat revient toujours sur la question de la violence, les films sont violents, etc. On ne peut pas vraiment dire, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas vraiment dire que cette série c'est une apologie de la violence non plus.
Non.
Hein, c'est pas... en effet, il y a la violence, Il y a à un moment donné une lutte, une rébellion, une révolte, etc.
Oui, c'est...
Mais cette violence, elle n'est pas forcément essentielle.
C'est des violences qui sont en miroir en plus. Hein.
Oui.
La violence du pouvoir des humains, on va dire, et la violence ensuite des androïdes émancipés. Elles se regardent, elles se confrontent, enfin, elles se renvoient l'une à l'autre, chacune justifiant la violence de l'autre.
Alors il y a quand même un déséquilibre, un rapport de force qui est défavorable aux humains. C'est que les humains, eux, ils peuvent mourir.
Oui, mais les androïdes, apparemment, on peut les éliminer aussi.
On peut les arrêter.
On peut les arrêter,
et
oui.
On peut aussi les relancer.
On peut les relancer, effectivement.
Il y a la possibilité,
oui, parce que c'est
eux.
Effectivement ce qui arrive à Dolores.
Voilà.
Dolores est tuée, en fait, elle va se retrouver dans le corps d'un autre androïde, quoi. Enfin, sa conscience, son être, va se retrouver, on ne va pas dire dans qui, on ne va pas,
oui,
pas trop spoiler, mais dans un autre corps, oui.
Alors, par rapport aux autres films de science-fiction, ici, on voit bien que ça joue sur la capacité donc, de créer une mémoire artificielle. Parce que peut-être dans d'autres films, ça va être la question du clonage, par exemple.
Oui, et puis la question aussi qu'on pose, c'est est-ce que c'est vraiment la mémoire qui permet l'émergence de la conscience ? Je pense qu'il y a un lien qui est établi dans la série entre ces deux éléments.
Et qu'on ne peut pas répéter indéfiniment sans, en quelque sorte, finir par transformer quelque chose.
C'est-à-dire
qu'en fait, si on pense à la mémoire ne cesse de se reconstruire.
Tout à fait, ouais.
Hein. Et la pure répétition, même si on reprogramme indéfiniment les androïdes, celui qui les reprogramme n'est plus le même et forcément, il va finir par transformer les personnages. Hein. Si on part de cette idée que ces androïdes sont des projections et des programmations de quelqu'un, ce quelqu'un changeant, vieillissant, se transformant, il va finir par transformer les personnages qu'il crée.
S'il change le programme.
Oui, mais même en ne serait-ce qu'en
par
établissant...
Manipulation.
Oui, par manipulation et puis aussi en programmant les scénarios, il va forcément finir par faire basculer les scénarios dans un sens ou dans un autre.
Ok. Mais
oui.
Je sais pas, mais parce que le problème de la programmation, c'est justement si tu la répètes, une programmation, si tu la reproduis sur un autre disque, etc., apparemment c'est qu'une suite de 1 et de 0, et tu vas avoir du mal quand même à la transformer, cette
oui.
suite de 1 et de 0.
Oui, non, c'est sûr. Mais en tout cas, ceux qui l'écoutent, et ça, c'est vont forcément eux se transformer.
D'accord.
Donc là, c'est le rapport de force, en quelque sorte, entre quelque chose qui résiste au changement et quelque chose qui ne cesse de changer.
D'accord.
Bon, ben, on va rester sur ces bonnes paroles, Alain.
Ok.
À bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non. Vous savez ce qu'il fait.